France Inter.
France Inter. Le 18-20. Charlotte Piret.
S'il est un jour où l'on fait société, dans le sens où nous vivons les mêmes choses au même moment, c'est peut-être celui-là, à commencer pourquoi pas, et pour une majorité d'entre nous au moins par la grasse matinée qu'il nous offre ce 14 juillet. Et peut-être faites-vous partie de ceux pour qui ça s'arrête là d'ailleurs, circuler, il n'y a rien d'autre à voir, ou au contraire, de ceux pour qui il veut dire beaucoup, de ces mots en yon qui comptent, nation, communion, tradition, socialisation et j'en passe. Savez-vous d'ailleurs qu'il est inscrit dans la loi, celle du 6 juillet 1880 et son unique article, le 14 juillet est le jour de la fête nationale annuelle. Inscrit dans la loi donc, mais peut-être aussi dans chacun d'entre nous, citoyens, résidents français, vous êtes 67 à y être attaché selon une étude Pluricité d'avril 2024, attaché au 14 juillet et aux valeurs de la République qu'il véhicule. Des valeurs sur lesquelles on pourra d'ailleurs revenir ensemble, car ce sont en réalité deux 14 juillet que l'on célèbre. La prise de la Bastille, évidemment, et l'insurrection révolutionnaire contre ce qui était alors le symbole de l'arbitraire royal. Mais également, un an plus tard, la fête de la Fédération, tout entière tournée autour de Louis XVI. Alors, duquel de ces 14 juillet vous sentez-vous le plus proche? À moins que ce qui vous hypnotise avant tout, ce sont ces 7000 femmes et hommes qui ont descendu les Champs-Élysées ce matin, ces chars, blindés, rafales et autres avions ravitailleurs, traditionnels défilés militaires que nous sommes quasiment la seule démocratie, dans ses proportions du moins, à avoir ancré dans notre histoire. Autour des 10 millions de téléspectateurs tout de même pour cet héritage de la Troisième République, pérennisé dans l'après-Première Guerre mondiale et aussi devenu une grand messe télévisuelle. Voilà, c'est un peu tout cela que nous allons explorer avec vous, à moins que le 14 juillet soit pour vous l'incarnation d'autre chose encore, du bal populaire au feu d'artifice partagé en famille. Venez nous le dire au 01 45 24 7000, sur WhatsApp au même numéro. Bref, nous vous accueillons par mail aussi et l'appli France Inter, c'est le téléphone sonne et vous êtes les bienvenus.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Et pour débuter sur le sujet, nous accueillons Daniel qui nous appelle d'Alsace. Bonsoir Daniel.
Bonsoir.
Soyez le bienvenu, je crois que vous avez un souvenir à nous confier.
Oui, effectivement, il se trouve qu'en 1972, j'ai eu l'occasion de défiler sur les Champs-Élysées lors du 14 juillet.
Bravo à vous. Bon, alors racontez-nous un peu, c'était quelle sensation ça a suscité?
Alors surtout, sensation levée très tôt. Et une longue attente devant l'Arc de Triomphe parce que nous étions les derniers à défiler. C'était l'année où la Légion ne défilait pas. Donc, nous avons attendu longtemps pour passer notre tour. Et l'anecdote que je racontais au monsieur que j'avais tout à l'heure au téléphone, c'était assez drôle. Nous étions rentrés d'Afrique au mois de mars ou avril. Mars, je crois, et nous n'étions plus tellement bronzés. Et l'anecdote rigolote est la suivante, c'est que on nous faisait faire toutes les activités sportives ou autres, torse nu, pour que nous soyons bronzés pour défiler.
Voilà. D'accord.
Et je crois même que Monsieur Zitron l'a noté lors de son commentaire. Cette année-là, parce qu'évidemment, vous vous doutez bien que ma maman était devant son téléviseur, et bien sûr, elle ne m'a pas vu, parce que ça se passe très vite. Hein.
Effectivement. Et alors, est-ce que vous, aujourd'hui, et depuis toutes ces années, vous regardez vous-même le défilé tous les 14 juillet?
Pas trop.
Ça vous inspire pas plus que ça, finalement?
Plus tellement, non. Il est vrai que je suis un peu... Soyons chauvins, allez. J'ai su que l'année dernière, ou il y a deux ans, le troisième air Pima a défilé, donc j'ai un peu regardé, mais bon, sans plus d'intérêt que cela. Voilà, d'autant plus que... vous savez, nous avons fait un service militaire, on était obligés de le faire, déjà. Voilà, alors... on a vécu des époques 70, peace and lover et tout ce qui s'ensuit. Et par conséquent, il y a des choses que j'ai apprises pendant, que je ne savais pas. sur l'activité de ces gens, notamment précédemment, bon, peu importe, on va pas rentrer là-dedans maintenant.
Mais vous n'êtes plus très attaché finalement à ce défilé-là, quoi.
Oh non, plus tellement. Non. Je ne vais pas dire que je suis anti-militariste.
Mais pas loin. Merci beaucoup en tout cas Daniel pour votre témoignage. Je vous propose qu'on accueille ensemble nos invités. Bénédicte Chéron, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes maîtresse de conférences en histoire contemporaine à l'issue à l'Institut catholique de Paris et spécialiste des relations armées et sociétés. Et nous sommes également en ligne avec Rémi Dalisson, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur d'histoire contemporaine à l'Université de Rouen et vous êtes notamment l'auteur de Célébrer la Nation, les fêtes nationales en France de 1789 à nos jours. Je me tourne peut-être vers Bénédicte Chéron pour réagir au témoignage que l'on vient d'entendre de Daniel, qui, même s'il a défilé sur les Champs-Élysées, ne semble plus s'y attacher à regarder ce défilé aujourd'hui. Ça dit quelque chose de l'attachement aujourd'hui que la population peut avoir à notre armée ?
Alors, ça raconte surtout le destin d'une personne, et j'espère que Daniel me permettra de résumer cela ainsi, qui a fait son service militaire dans les années 1970, à une époque où effectivement les jeunes hommes n'avaient pas le choix de le faire ou de ne pas le faire. Et ça montre bien en fait que ce service militaire, il a été une expérience vécue de manière très diverse pendant plusieurs décennies par chaque classe d'âge masculine, mais qu'il n'induit pas forcément un grand attachement aux armées par la suite dans le parcours de chacun. Ce qui est intéressant à observer, c'est qu'aujourd'hui, alors qu'il n'y a plus de service militaire, et probablement les deux faits sont liés, les Français ont une image beaucoup plus positive des armées et un attachement aux armées qui est beaucoup plus fort que dans les années 70, parce que la société a évolué, parce que de fait, les jeunes hommes ne sont plus obligés de passer par les armées pour devenir des hommes, précisément, et parce que également on est dans une période de rapport à la patrie, à la nation, à l'idée nationale, qui est assez différente par rapport à ce qu'elle était dans les années 70. Aujourd'hui, les Français se disent plutôt fiers d'appartenir à la nation française. Il y a un fort sentiment d'appartenance nationale, ce qui n'était pas forcément le cas dans les années 70.
Le fait que l'engagement militaire soit un choix aujourd'hui change complètement la donne dans le rapport que la population a vis-à-vis de son armée, on peut le résumer comme ça ?
Oui, ça, on peut le résumer comme ça. Et puis, il faut avoir en tête aussi que tous ces jeunes hommes ont fait leur service militaire dans les années 70, à un moment où déjà, en fait, on avait envisagé de le suspendre, hein, ce service, dans les années 60, notamment parce qu'on avait des équipements plus modernes qui rendaient moins nécessaire le fait d'avoir une armée de masse, parce qu'il y avait la dissuasion nucléaire qui fait qu'en fait, on n'a plus besoin d'exposer une armée à la frontière pour défendre cette frontière. Et finalement, l'histoire de la conscription, on l'oublie souvent, mais elle est vraiment très liée à l'histoire de la défense de la frontière. Et donc, c'est vrai qu'à partir du moment où il n'y a plus un ennemi directement aux frontières qui risque de nous envahir, le service militaire perd de son sens.
Rémi Dalisson, puisqu'on démarre bille en tête, j'allais dire, sur cette question des armées, effectivement, est-ce que le symbole, le premier symbole du 14 juillet, c'est ce défilé militaire ? Est-ce que ça a été toujours le cas et c'est le cas toujours aujourd'hui ?
Oui, ça a été le cas dès l'origine, puisque le 14 juillet est créé en 1880, et il est créé par une Troisième République qui n'était pas très très populaire hors des villes en France, et qui donc a assis sa républicanisation du pays sur trois piliers, hein, l'école, l'armée et les associations. Et donc Léon Gambetta a beaucoup développé sur le lien entre l'école et l'armée. Donc, au premier 14 juillet, l'armée défile devant les républicains, les chefs républicains, le chef de l'État, le chef du gouvernement, Gambetta, et ce sont les républicains qui remettent, les autorités civiles, qui remettent leur drapeau aux militaires, signe de la suggestion d'une armée à la République. C'est une armée de conscription, hein, comme l'a dit ma collègue, et donc c'est bien cette idée d'une nation en armes qui doit être mobilisée, alors à l'époque, pour reprendre l'Alsace-Moselle qui avait été perdue en 1870. Donc il y a un lien ontologique entre l'armée de conscription et la République. Et l'école aussi, puisque en 1880, on fait défiler les bataillons scolaires, c'est-à-dire les petits-enfants qui doivent se préparer à la revanche. Donc il y a bien ce lien, et le témoignage est intéressant, parce que c'est quelqu'un qui nous dit « J'ai fait mon service militaire, moi aussi, comme un vieux, hein, j'ai fait mon service militaire, et maintenant je suis un petit peu détaché, c'est qu'à partir du moment où ce n'est plus l'armée de conscription qui défile, c'est un autre spectacle qui est à donner à voir au 14 juillet. C'est plus tellement la nation en armes, hein, c'est une armée de professionnels, donc ça pose aussi la question du sens du défilé à partir du moment où il n'y a plus de conscription.
Et ça n'a jamais été remis en question, finalement, ce lien hein, que vous dites très fort et existant depuis le début entre le 14 juillet et la notion de défilé militaire, d'exposition de la puissance militaire, parce que ça peut paraître un peu réducteur aussi d'avoir cette vision-là un peu écrasante, peut-être même, de la fête nationale.
Alors, ça n'a jamais été remis en cause, même s'il y a, il y a eu des critiques hein, de partis de gauche, de partis d'extrême gauche dans les années 20, de partis d'extrême droite dans les années 30. Mais ce lien a perduré, entre autres grâce à l'école, même s'il s'est modifié après la Grande Guerre. Après les massacres de la Grande Guerre, l'armée est considérée différemment, les instituteurs la considèrent différemment. Donc il y a une évolution, mais en 1939, par exemple, il y a un grand défilé avec les Anglais parce qu'il faut préparer une hypothétique guerre qui semble se profiler à l'horizon. Donc le lien n'a jamais été rompu entre l'armée et le 14 juillet, mais je tiens à préciser qu'il n'y avait pas que l'armée qui défilait au 14 juillet jusque dans les années 60. Il y avait aussi la société civile. Il y avait des défilés d'associations, de sociétés d'anciens combattants, d'orphéons. Donc, vous voyez, il n'y avait pas que le défilé militaire. Mais le défilé militaire, ça fait partie du triptyque, hein, comme vous avez un peu évoqué, hein, défilé militaire, balle des pompiers, feu d'artifice. Et c'est ça qui reste dans la tête des gens.
On a d'ailleurs, Bénédicte Chéron, j'ai noté que vous souhaitiez intervenir, mais on a Stéphanie qui nous écrit par mail et ça permet de faire le lien avec ce que vient de dire Rémi Dalisson, qu'elle dit « Je trouve que le défilé n'est pas assez représentatif de la République, donc ce défilé purement militaire. J'aimerais que les fonctionnaires défilent également, les médecins, les éboueurs, enfin ceux qui finalement font aussi notre société du quotidien. » Qu'en pensez-vous, Bénédicte Chéron, de cette idée-là?
Ben, en fait, c'est une idée qui court et puis qui a existé hein, partiellement, comme le disait Rémi Dalisson. Mais ce qui est notable aussi, c'est qu'en fait, à partir des années 1970 et 80, le défilé devient aussi retransmis à la télévision. Et il faut avoir conscience que la télévision, en fait, joue un rôle dans ce 14 juillet et joue un rôle aussi dans la centralité du défilé militaire aujourd'hui et dans la centralité du 14 juillet d'aujourd'hui. Parce que finalement, en fait, les rites militaires, comme tous les rites qui sont très visuel, hein, les cérémonies militaires, elles sont faites d'abord pour créer de la cohésion entre les combattants, ensuite pour impressionner ceux que les combattants peuvent affronter, et puis elles sont faites aussi pour procurer à ceux qui regardent le défilé un sentiment, une émotion, parce que c'est visuel, c'est un spectacle au sens propre du terme. Et en fait, le défilé militaire s'inscrit à la télévision de manière très efficace à partir du moment où la télévision est dans tous les foyers français, et probablement la télévision vient renforcer en fait, la place qu'occupe le défilé militaire dans le 14 juillet et, paradoxalement, vient aussi, en fait, atténuer un peu toutes les autres manifestations populaires qui peuvent exister autour, mais qui sont dispersées sur le territoire, beaucoup moins centralisées et beaucoup moins visuelles par rapport à un défilé militaire.
Et c'est vrai, je dois dire qu'en préparant cette émission, j'ai été étonnée. Hein, on a fait le test finalement avec l'équipe du Téléphone Sonne ce matin au moment du défilé. France 2, TF1, CNews, BFM, c'est pléthore de chaînes hein, qui retransmettent le même programme, donc ce défilé en direct. On n'a pas souvent dans le quotidien télévisuel, une espèce d'unanimité comme ça des différentes chaînes sur quelque chose qui en plus est long, 3 heures, avec des images qui peuvent sembler répétitives. C'est un peu finalement contre-intuitif que ce programme-là qui soit diffusé un peu partout en même temps.
Alors, c'est contre-intuitif, mais pas complètement, précisément parce qu'en fait, d'abord, les armées, c'est quelque chose de visuel. Il y a des uniformes, il y a des couleurs, il y a du matériel. Il y a une forme de séduction hein, militaire qui s'opère par l'image. Et depuis, en fait, pas seulement depuis la télévision, c'est très antérieur. À partir du moment où on représente les armées par des images, il y a quelque chose qui fonctionne. Et puis, par ailleurs, on voit bien qu'en fait, les télévisions sont à l'unisson dans des moments que l'on considère être des moments de communion nationale. Et c'est vrai pour les grandes commémorations, c'est vrai pour des cérémonies d'hommage quand il y a des, hélas, des victimes d'attentats, par exemple. Et en fait, le 14 juillet a acquis ce statut aussi de cérémonie télévisuelle.
Vous parlez justement des attentats et on a Sophie qui nous écrit par mail pour nous rappeler que le 14 juillet, elle a bien raison de nous le dire, est aussi depuis 9 ans le triste anniversaire de l'attentat de Nice. 86 morts sur la promenade des Anglais, hein, c'était le 14 juillet 2016. Et puis on a Michel qui nous appelle de Toulouse. Alors là, il ne s'agit pas d'attentat, mais je pense, Michel, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Voilà,
ouais, vous... C'est gentil de donner suite à mon appel.
Je vous en prie, pour vous, c'est ce côté violent du 14 juillet qui vous dérange, je crois.
J'ai pas envie, si vous voulez, de faire communion autour de cette date, quoi. Pourtant, je tiens à préciser que je suis absolument pas de droite. Mais je trouve dommage cette référence au 14 juillet, comme je trouve un peu mal à propos la Marseillaise, le texte de la Marseillaise. Ça me paraît, on pourrait trouver quand même de nouvelles références, je pense.
C'est quoi ? C'est la violence liée à la prise de la Bastille, en l'occurrence, aux paroles de la Marseillaise dont vous parlez ? C'est ça qui vous dérange ?
La violence, et en plus le fait que c'était déjà une prison qui était, il y avait que 7 occupants, enfin, et voilà, je veux dire, c'était peut-être un symbole, mais c'était un symbole un peu vide. Et cette référence-là, ça fait quand même plus de 200 ans, ça me semble un peu... On peut changer des dates et des symboles, quoi. Je veux dire, on n'a pas besoin de toujours se référer à la Révolution quand on parle de l'histoire de la France.
Merci beaucoup, Michel, pour votre témoignage. Rémi Dalisson, je crois que vous souhaitiez répondre à notre auditeur.
Oui, alors la question est très intéressante et elle pose la problématique du sens des commémorations. Pourquoi est-ce qu'il y a autant de commémorations en France, hein? Donc il y en a quand même 17, et notre président vient d'en créer une il y a 2 jours, hein, une journée nationale. Donc parce que depuis la Révolution française, et il faut bien parler de la Révolution française, la fête civique, la commémoration, est comprise comme un moyen de républicanisation. Je vous cite l'article 301 de la Constitution de 1795, il sera établi des fêtes nationales pour entretenir la fraternité entre les citoyens et les attacher à la Constitution, à la patrie et aux lois. Donc la fête nationale est comprise dès la Révolution française comme une sorte de pédagogie civique. Alors après se pose la question du choix des dates que soulignait votre interlocuteur. Alors on a beaucoup discuté, quelle date retenir, il y a eu des tas de débats. Hein. Le nœud central, c'est la Révolution française, hein, puisque elle crée une nouvelle sorte de fête, hein, c'est Jean-Jacques Rousseau, hein, qui a pensé, qui inclut le peuple, qui auparavant, dans les fêtes monarchiques, était tenu à l'écart. Donc, le peuple, mais quelle date ? Et donc, il y a des tas de débats dans la Troisième République commençante. Est-ce que ça aurait pu être le 5 mai, l'ouverture des États généraux ? Ça aurait pu être... Le 21 septembre, hein, la proclamation de la République. Il y a eu plusieurs dates et on s'est mis d'accord sur le 14 juillet parce que c'était une insurrection, effectivement, qui a fait quand même à peu près 90 morts, mais c'était relativement tempéré et ça pouvait satisfaire la gauche et la droite, pour schématiser, puisque la droite pensait plutôt à la fête de la Fédération et la gauche, comme Victor Hugo, au 14 juillet. Donc effectivement, il y a la question du choix des dates. Mais c'est un choix qui est consensuel, mais qui a toujours provoqué des contestations. Hein, je disais tout à l'heure, des droites, de l'extrême droite, des ligues, hein, mais aussi de l'extrême gauche. Mais simplement, il faut bien imaginer que c'est lié à l'histoire de la République. Donc c'est pour ça que c'est encore célébré aujourd'hui. Parce que qu'est-ce qu'il y avait sur les drapeaux ? Qu'est-ce qu'il y a sur les drapeaux ? Qu'est-ce qu'il y a sur les Mariannes ? Il y a le triptyque liberté, égalité, fraternité. Donc en ça, il y a un sens. Quant au choix de la Marseillaise, il faut se méfier d'un anachronisme qui est un petit peu dans l'air du temps. C'est un chant d'une époque de guerre, hein, qui inclut des notions militaires. Mais après, ça dépend des strophes que l'on retient. Il y a des strophes contre la dictature, contre les monarchies abusives, etc., etc. Donc, on s'est aussi posé la question de l'hymne national. Hein, on pouvait choisir d'autres chants que la Marseillaise, et finalement on l'a conservée parce que au fil du temps elle s'est construite comme le symbole de la France. Je pense à la Seconde Guerre mondiale, la Marseillaise était interdite par les Allemands, elle est chantée par les résistants. Je pense au 19e siècle, elle est interdite sous le Second Empire, elle est chantée par les républicains. Donc vous voyez, il y a aussi cette appropriation du chant qui fait qu'aujourd'hui, il a un sens démocratique, malgré certaines paroles.
Alors, nous avons Marie qui nous envoie une note vocale. Je vous propose qu'on la découvre ensemble.
Eh bien, moi, le jour du 14 juillet, comme le chantait si bien Brassens, je reste dans mon petit lit douillet. Voilà, au revoir, c'était Marie.
Merci Marie qui nous a envoyé une note vocale par WhatsApp, donc 01 45 24 7000, c'est le même numéro pour nous appeler. Et je vous rappelle que nous sommes avec Bénédicte Chéron, maîtresse de conférence en histoire contemporaine à l'Institut catholique de Paris, et Rémi Dalisson, professeur d'histoire également à l'Université de Rouen, pour parler du 14 juillet, de ce qu'il signifie pour vous, Bénédicte Chéron. Je reste au fond de mon lit, finalement, je me désintéresse du 14 juillet. On reparle de nouveau de ces dissensions qui peuvent parfois exister effectivement entre les Français et ce que symbolise le 14 juillet.
Oui, bien sûr, parce que comme le disait Rémi Dalisson, c'est une fête aussi qui s'inscrit dans des trajectoires politiques. Et alors, il faudrait pouvoir, pour bien analyser ce que disent vos auditeurs, les uns et les autres qui interviennent, pouvoir creuser. En fait, on a très envie de leur poser des questions pour savoir si précisément ce qui les dérange, c'est ce que représente le choix de cette date ou c'est le défilé militaire. Parce qu'il est vrai qu'il existe encore, et même si c'est un peu résiduel aujourd'hui dans notre société, une forme d'antimilitarisme qui est très limitée hein, par rapport à ce qu'il était encore une fois dans les années 70, mais qui existe et qui peut susciter aussi un rejet de cette fête nationale à très forte tonalité militaire. Et puis si on veut compléter un peu ce panorama, il faut aussi comprendre que la centralité du défilé militaire, elle est aussi peut-être renforcée aujourd'hui par le fait que l'histoire que rappelait Rémi Dalisson, elle existe, mais qu'on est aussi dans un moment où il y a une interrogation en fait sur ce qui est le lien entre les citoyens, sur la nature du lien qui unit les citoyens en France. On est dans une société qui, à tort ou à raison, se considère comme une société en crise, une société souvent fracturée, à la fois socialement et politiquement, hein, depuis les années 1990. Et en fait, on voit que les armées, dans ce contexte, restent, même si elles suscitent une toute petite opposition chez certains, les armées apparaissent comme étant le signe le plus visible de l'existence de la nation. C'est visible par l'uniforme, c'est visible parce que si le président de la République décide d'employer les armées, eh bien, il peut le faire sans débat politique. Et donc, ça suscite aussi de l'attachement chez des Français qui s'interrogent parfois sur leur propre destin politique.
Nous avons effectivement à ce sujet Thibault via l'appli qui nous dit, qui nous rappelle à quel point le 14 juillet c'est la révolution et la prise de la Bastille. Marie sur WhatsApp qui nous dit pour moi c'est la chute de la monarchie, l'avènement de la démocratie, je ne regrette que ça ne soit pas plus mis en avant. Effectivement Rémi Dalisson, c'est aussi le 14 juillet l'occasion de faire nation autour des valeurs qui sont les valeurs de la République et pas uniquement autour de la question militaire.
Absolument. Le 14 juillet n'est pas que le défilé. Effectivement, Bénédicte Chéron a raison. Le fait que ce soit télévisuel, que ça soit dans chaque préfecture, dans chaque sous-préfecture, il y a des défilés militaires, renforce cette militarisation. Mais c'est bien autre chose. Et la pédagogie des valeurs des droits de l'homme, des valeurs des Lumières, des valeurs de la Révolution, elle était beaucoup plus faite, je pense, auparavant, jusque dans les années 70-80, qu'elle ne l'est aujourd'hui. Cela dit, il ne faut pas oublier que le 14 juillet est enseigné à l'école, dès l'école primaire, hein, dans les valeurs de la République. Donc on étudie les symboles de la République, la Marianne, le 14 juillet, les trois couleurs. Donc il y a toujours cet aspect didactique civique qui montre que le 14 juillet, c'est tout. Ce n'est pas que le défilé, hein, j'insiste bien. Et si on quitte un petit peu Paris, la région parisienne, mais dans les provinces, comme diraient les Parisiens, eh bien c'est le bal, mais c'est aussi quelquefois les remises de prix. Sous la Troisième République, le 14 juillet, c'était la fin de l'année scolaire. Donc on remettait les prix aux meilleurs élèves, avec des ouvrages de Lavis, avec des dictionnaires. Donc vous voyez, il y avait vraiment autre chose que le défilé. Et aujourd'hui, on ne parle que du défilé parce que effectivement il y a des tensions, parce que il y a des gens qui se posent des questions sur ce qu'il signifie, sur le rapport de l'armée à la nation. Mais j'insiste bien, cette autre chose, ça doit être pris comme un élément de la républicanisation. Et je répète, nous sommes un des rares pays où tout cela est enseigné dès l'école primaire jusqu'à la terminale.
C'est vrai qu'il y a aussi la dimension évidemment festive, les feux d'artifice, la fête populaire par excellence. On se retrouve en famille, entre amis, dans des endroits, des lieux qui sont souvent gratuits et donc accessibles à tous. Il y a le bal des pompiers, bien sûr, qui est aussi une institution du 14 juillet. Mais il y a aussi, alors j'ai noté, certaines fêtes qui n'ont finalement plus grand-chose non plus à voir avec la célébration des valeurs de la République. J'ai noté un bal des pompiers sur le thème des bronzés font du ski, par exemple, à Athis-Mons dans le 91, le feu d'artifice à Disneyland, des choses qui s'éloignent aussi de ces valeurs-là. Qu'en pensez finalement ? Est-ce que le caractère festif prime avant tout pour ce 14 juillet ?
Alors peut-être de plus en plus, mais il ne faut pas oublier par exemple que jusqu'à une date relativement récente, les feux d'artifice étaient didactiques. C'est-à-dire que devant les feux d'artifice, on mettait des grands transparents avec des Mariannes, avec les symboles de la République. Donc même les feux d'artifice étaient didactiques. Donc tout ça a un petit peu disparu. Mais je pense à l'interlocuteur précédent qui ne voulait pas se lever comme Georges Brassens. Il ne faut pas oublier aussi que les fêtes nationales en France et le 14 juillet sont aussi des événements extrêmement politisés, pendant lesquels les Français prennent la parole, profitent de la fête nationale pour exprimer des opinions politiques. Et c'était important sous la Troisième République, entre l'Église et les Républicains, par exemple. Mais en 1953, il y a eu un grand 14 juillet à Paris, une manifestation, une contre-manifestation organisée par la gauche, qui s'est terminée par des affrontements extrêmement rudes avec la police. Et il y a eu 9 morts. Des Algériens, parce qu'on était en pleine guerre d'Algérie. Au 14 juillet, les présidents de la République se font siffler. Pendant la Seconde Guerre mondiale, je dis, au 14 juillet, on lançait des tracts. Donc, vous voyez, c'est aussi un événement politique. Et dans les années 70, comme disait Bénédicte Chéron, les pacifistes manifestaient le 14 juillet, bon, plus encore le 11 novembre, mais ils manifestaient. Donc, vous voyez, il y a aussi ça, c'est un moment d'intercession entre l'État et la population.
Effectivement, Bénédicte Chéron, peut-être sur cette dimension politique également du 14 juillet. On pense bien sûr par exemple au discours aux armées du président Emmanuel Macron hier qui annonce une hausse conséquente du budget de la défense. C'est aussi le moment de pouvoir acter certaines décisions politiques, certains marqueurs. Ça sert aussi à ça le 14 juillet ?
Oui, et en fait le 14 juillet c'est un moment qui est politisé de facto du fait de la nature de cette date. Et puis, c'est un moment pendant lequel les politiques aussi, les autorités politiques, les responsables politiques se positionnent. Et c'est vrai que c'est devenu une date qui est à la fois une date de politique intérieure et une date de politique internationale, parce que les présidents de la République ont aussi pris l'habitude de convier, en particulier pour le défilé, des nations étrangères qui défilent, des responsables politiques étrangers qui sont dans la tribune présidentielle. Et tout ceci, en démocratie, suscite de manière tout à fait légitime du débat et du clivage politique, parce que la politique étrangère, comme la politique intérieure, eh bien, est faite de choix et de décisions qui peuvent être discutées par les citoyens. Donc c'est évident qu'il y a une dimension politique et qu'il est normal et légitime qu'il n'y ait pas un consensus absolu autour du 14 juillet, même si effectivement sa forme télévisuelle, parce que la télévision est plutôt une machine à fabriquer du consensus, donne l'impression qu'il est consensuel.
Il y a aussi, je trouvais intéressante aussi la question de la figure du héros et cette occasion, peut-être Rémi Dalisson là-dessus, sur le fait de célébrer certains héros, qu'ils soient évidemment militaires, on en a parlé, mais je pensais cette année, c'est Foussinou Cissé, cet homme qui a sauvé toute une famille d'un incendie, c'était à Paris, en les faisant passer par la corniche du 6e étage, les images assez impressionnantes ont fait le tour des réseaux sociaux notamment, et qui assistait au défilé cette année avec sa famille, qui a été un des invités. C'est aussi l'occasion de célébrer et de se rassembler aux certaines figures qui peuvent être aussi des citoyens lambda à la base.
Oui, tout à fait. Là, on retrouve la dimension didactique de la fête. Le 14 juillet a toujours été l'occasion de célébrer des grandes figures, alors soit des grandes figures républicaines, Rouget de Lille, etc., soit des figures plus quotidiennes, moins officielles, comme la personne que vous avez mentionnée. Mais pourquoi est-ce qu'on a besoin de héros, des héros qui symbolisent la nation, des actions positives ? C'est parce que le 14 juillet renvoie un imaginaire. Je pense qu'il ne faut jamais oublier ça. Le 14 juillet, c'est un imaginaire, l'imaginaire d'une République parfaite, or par définition ça n'existe pas, l'imaginaire de la grandeur de l'armée française, ça parle beaucoup aux gens, il y a un petit côté évidemment cocardier de voir défiler une armée impeccable, et puis l'imaginaire qui montrerait que la France reste une grande puissance en fait. C'est aussi ça. L'imaginaire d'une république, l'imaginaire d'une nation en armes jusque dans les années 2000, avec la conscription, et puis aujourd'hui l'imaginaire d'une grande nation, ce qu'objectivement la France n'est plus. Elle est une nation moyenne. Mais ce jour-là, on a l'impression... En 1930, le 14 juillet, célèbre aussi, vous voyez, le centenaire de la prise de l'Algérie, de la conquête de l'Algérie. Donc la plus grande France. Donc vous voyez, cette dimension imaginaire, alors peut-être qu'elle est plus prégnante chez les générations plus anciennes, hein, mais je pense qu'elle joue encore à travers l'éducation que j'ai évoquée. Il ne faut jamais oublier l'imaginaire quand on parle de rituel.
Georges nous appelle de Martinique. Bonsoir Georges. Bon, ah, Georges n'est pas avec nous finalement. Je crois qu'il voulait nous parler de l'importance du 14 juillet, mais on va essayer de voir si on peut l'avoir. Bonsoir Georges, je crois que vous êtes avec nous maintenant.
Vous m'entendez là ?
Oui, je vous entends très bien. Bonsoir. Vous êtes à l'antenne, soyez le bienvenu.
Alors, concernant le 14 juillet, j'avais déjà dit. Alors, il y a la liberté d'opinion des Français. Ceci se gouverne librement. Bien. Alors, j'ai entendu une dame d'une précédente dire que pendant le 14 juillet, elle restait dans son lit douillet.
Oui.
Libre de le faire ou non. Mais si cette personne vit en 2025 peut rester dans son lit douillet, c'est qu'il a fallu des Français qui se sacrifient depuis la prise de la Bastille en 1789, pendant la guerre franco-prussienne 1870, pendant la Première Guerre mondiale 1914 et en 1940 pendant l'occupation, qui se sont sacrifiés et confèrent leur vie pour que cette dame aujourd'hui puisse rester dans son lit douillet. Je me répète. Mmh.
Pour vous, c'est important de respecter ceux qui se sont sacrifiés, comme vous dites.
Mais oui, pour qu'aujourd'hui des gens puissent dire ce qu'ils veulent. Alors, j'ajoute que elle s'inspire de M. Boissens, mais M. Boissens, il a chanté ce qu'il voulait, mais pendant l'occupation en 1950, ce monsieur ne s'est guère manifesté dans la résistance.
Mm-hmm.
Bon, alors, chacun, alors, je me répète, je termine, je ne vais pas monopoliser l'antenne. Il y a la liberté d'opinion des Français. Ils se gouvernent librement. Chacun dit ce qu'il veut, mais des gens, il faut rappeler que des gens se sont sacrifiés.
Mm-hmm.
Une fois, pourquoi des gens aujourd'hui puissent dire rester dans leur lit douillet.
Merci beaucoup, Georges, pour votre témoignage, Bénédicte Chéron, ce respect finalement dû aux anciens et ceux qui se sont battus pour les valeurs de la République.
Oui, et ben, pour toute une partie de la population française, et probablement aujourd'hui, alors si l'on en croit les enquêtes d'opinion des parties conséquentes de la population française, la question de l'attachement à l'idée nationale et donc à tous ceux, de l'hommage rendu à tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, font vivre, ont fait vivre la nation, y compris jusqu'au sacrifice de leur vie dans les guerres, est quelque chose qui compte. Et on voit bien chez vos auditeurs que, en fait, dans ce type de cérémonie, de célébration et de cérémonie nationale, il y a toujours, comme dans tous les moments en démocratie, une tension entre l'individuel et le collectif. En fait, il y a le 14 juillet est le réceptacle de toutes les inquiétudes de l'époque. Mmh. C'est vrai de la part des autorités politiques qui y placent ce qu'elles veulent y placer parce qu'elles estiment que c'est nécessaire et impératif à tel moment. Et puis, on voit que chaque individu aussi voit dans le 14 juillet ce qui correspond à son histoire, à sa trajectoire politique et individuelle. Et cette tension, elle existe toujours en démocratie. C'est probablement ce qui fait le propre des démocraties et qui n'est pas toujours simple à vivre.
Alors, autre sujet de tension hein, dont on n'a pas encore parlé, mais on a beaucoup d'auditeurs qui nous demandent combien coûtent ces défilés, qui interrogent sur effectivement ces dépenses, sont-elles encore justifiées en ces temps d'économie hein. On s'attend effectivement à un plan d'économie annoncé dès demain par le Premier ministre. On y consacrera d'ailleurs le téléphone sonne demain. On a Emmanuel Macron, je le disais un peu plus tôt, qui a annoncé des dépenses militaires en augmentation conséquente. Hein. Effectivement, cette notion du coût à la fois pour le fonctionnement des armées, mais également uniquement pour les festivités du 14 juillet, c'est aussi un sujet de tension. Bénédicte Chéron, peut-être.
Oui, alors évidemment.
Et Rémi Dalisson, allez-y. Là,
alors, Rémi Dalisson, allez-y.
Pardon, excusez-moi, Bénédicte.
Non, je vous en prie.
Ça a toujours été un sujet de tension très tôt. Hein. Je dirais jusqu'à la Grande Guerre. À partir de la Grande Guerre, on se pose la question du symbole militariste, mais aussi de son coût, hein, parce qu'il y a tout le redressement de la France, les mutilés qu'il faut soigner. Donc il y a énormément de coûts induits qui font qu'on remet en cause le défilé, qui quelquefois dans les années 20 n'est même pas organisé. Il y a juste une revue à la place du défilé.
Donc, pour des raisons budgétaires, justement, ce défilé, quand vous dites qu'il n'est pas
organisé. Absolument, dans les années 20, c'était pour des raisons budgétaires, mais très vite, il est remis à l'honneur parce qu'il symbolise quelque chose. Et j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, l'intervention du monsieur précédent. On voit bien que c'est rentré dans la culture républicaine. Quand bien même il y a la tension dont on parlait Bénédicte, c'est rentré dans la culture républicaine puisque pendant la Grande Guerre, il y avait des manifestations de résistants. Pendant la Seconde Guerre mondiale, pardon, il y avait des manifestations de résistants. Le 14 juillet, on distribuait des tracts sur lesquels on faisait référence à Valmy, aux exilés, à Brunswick, etc. Donc, le 14 juillet symbolisait la résistance. Donc ça rejoint ce que disait l'auditeur. Et le 14 juillet était interdit par les Allemands, alors pas en zone sud, mais ça c'est une autre histoire, était interdit par les Allemands, et De Gaulle manifestait le 14 juillet. Et c'est lors d'un 14 juillet qu'il fait une première profession de foi républicaine. Donc c'est bien ancré dans la culture républicaine, ce qui explique le respect que beaucoup de gens lui demandent. Et dans le monde, le 14 juillet, aujourd'hui, symbolise la fin d'un régime monarchique, la fin des privilèges, même si c'est un petit peu plus tard, le 4 août. Donc, vous voyez, y compris ailleurs qu'en France, le 14 juillet est un symbole républicain, qui n'empêche pas la tension dont parlait Mme Chéron. Voilà, je m'excuse d'avoir pris la parole.
Non, aucun problème. On écoute également Bénédicte Chéron sur cette question de dépenses, peut-être inconvenues, là, pour un défilé militaire ou autre.
Ça dépend de quelles dépenses on parle, celle du défilé, celle du feu d'artifice parisien, par exemple, qui est toujours extrêmement spectaculaire. Donc, il y a évidemment tout ce lot de dépenses, y compris dans les communes, d'ailleurs. Le coût du défilé militaire, en fait, il est, je crois de mémoire qu'il était entre 4 et 5 millions dans les années normales. Et il y avait eu plus d'attention l'année dernière parce que l'année dernière, en 2024, était une année particulière de commémoration des 80 ans du débarquement de Normandie juste avant le 14 juillet. Donc effectivement, le budget avait été beaucoup plus conséquent. Mais on voit bien que de toute façon, dans les périodes de disette budgétaire, se pose toujours la question de l'utilité de la dépense. Et c'est probablement aussi une des questions qui va se poser dans les jours qui viennent, après les annonces que le président de la République a souhaité faire hier soir dans son discours aux armées, en considérant qu'il est nécessaire d'augmenter plus vite que prévu le budget des armées.
On rappelle peut-être brièvement un budget qui sera doublé en 10 ans, puisqu'on a un objectif de 64 milliards d'euros en 2027. Et j'en profite également pour citer ce sondage d'Oxaf pour le Figaro. 72% des Français prêts à soutenir cette augmentation des dépenses militaires. Malgré tout, il y a une adhésion assez forte.
Oui, il y a une adhésion assez forte dans les enquêtes d'opinion, mais on voit bien que si le 14 juillet est un moment de relative cohésion nationale, le 14 juillet se refermant, au lendemain du 14 juillet, se pose aussi la question des choix politiques induits par ce qui a été dit lors du 14 juillet, et le 14 juillet n'efface pas totalement les fractures et les dissensions politiques qui peuvent exister à l'intérieur de la nation. Donc évidemment que c'est une question qui va perdurer et courir dans les discussions budgétaires.
Oui, et cette notion de gaspillage d'argent public, finalement, en ces temps plus compliqués sur ce plan-là, évidemment que c'est une question assez légitime à poser, notamment sur les défilés.
Mais comme toute question concernant la dépense publique, elle est légitime, mais ça n'est pas une question proprement liée au 14 juillet. En fait, la question de la dépense pour ce qui permet au pouvoir politique de se mettre en scène est acceptée dans les moments aussi où la confiance envers le pouvoir politique est forte. On est dans une période où la confiance envers le pouvoir politique est plutôt écornée, abîmée, donc forcément la question va devenir plus évidente qu'en d'autres moments de plus large consensus national.
Vous parlez de confiance, Bénédicte Chéron. C'était une question que je souhaitais vous poser également, Rémi Dalisson. Est-ce qu'il y a un lien, finalement, entre l'État, la crise du politique, et est-ce qu'il peut être un lien, un attachement des Français à la fête nationale, ou est-ce que ce sont deux choses complètement décorrélées ?
Non, je pense que c'est assez corrélé. Mais ce que disait Bénédicte est tout à fait exact. Je pense que les hommes politiques savent que le 14 juillet est une date consensuelle, que le défilé est consensuel. Donc, si vous me passez l'expression, rajouter lors du défilé, utiliser, c'est une sorte d'instrumentalisation aussi du défilé. Ça renvoie aussi au rapport entre le politique et le militaire à travers la Constitution de 1958. C'est quand même un pouvoir présidentiel très fort. Donc, comme dit notre président, il est le maître des horloges, mais surtout dans le domaine militaire. Donc ça pose aussi cette question-là. Quel est le contrôle de la nation sur les dépenses militaires, sur les aventures militaires? Mais je pense qu'il y a ça. On est quand même un pays un petit peu bizarre, où les présidents de la République, quels qu'ils soient, quelle que soit leur couleur, jouent beaucoup des symboles, jouent beaucoup des commémorations, parce qu'ils savent qu'il y a une culture de la commémoration hein, qui est relativement consensuelle et que ce sont des moments d'adhésion qui peuvent faire oublier justement le lien qui se distend entre le politique et la nation.
Bénédicte Chéron, est-ce que au-delà, parce qu'on a un peu parlé effectivement des autres valeurs républicaines véhiculées par le 14 juillet, est-ce qu'on a une notion de savoir si effectivement il y en a une qui prend le pas un peu plus que les autres? On a bien sûr parlé du défilé, mais est-ce qu'il y a cette notion de communion, de faire ensemble? Est-ce que c'est vécu de manière équivalente également dans toutes les strates de la population? On a parlé de l'attachement de la jeunesse à l'armée, mais est-ce que selon le quartier ou la région dans laquelle on vit, on a ce même attachement? En posant la question, j'imagine que la réponse est plutôt non, mais j'avais envie d'avoir votre avis sur cette question.
Alors, il y a évidemment des différences qui sont liées à des appartenances géographiques ou à des origines socioculturelles qui font varier les chiffres, mais ce qui est assez spectaculaire sur les jeunes générations, c'est que les écarts, par exemple, entre la droite, les jeunes qui se pensent de droite ou qui se disent de droite et les jeunes qui se disent de gauche, sont relativement sans conséquence, je dis bien relativement, hein, sans conséquence, par exemple, sur leur attachement au rite patriotique et aux armées. Donc, on est clairement, et ça, il y a vraiment des sociologues qui travaillent dans le temps long et qui le mesurent et qui l'évaluent, dans un moment de notre histoire où il y a à la fois ce qu'on appelle une très forte individualisation des valeurs et des modes de vie, c'est-à-dire que chacun veut choisir son système de valeurs, ses croyances et sa manière de vivre, et en même temps, et ça a l'air apparemment paradoxal, un très fort attachement à l'idée de nation et au fait que l'État puisse manifester son autorité. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup moins de rejet de l'autorité de l'État que chez les générations précédentes, et en tout cas celles des années 70 et 80. Donc c'est évident que dans la perception même de cette date du 14 juillet, ça induit des évolutions chez les jeunes générations et très probablement des clivages idéologiques qui sont moins forts qu'ils n'ont pu l'être, même s'ils peuvent toujours s'exprimer dans un certain nombre de minorités ou de marges politiques.
Et ce sera le mot de la fin. Je vous remercie beaucoup, Bénédicte Chéron, maîtresse de conférence en histoire contemporaine à l'Institut catholique de Paris, et Rémi Dalisson, professeur d'histoire contemporaine à l'Université de Rouen. Dans un instant, les infos de 20h, mais avant cela, la question des petits bateaux.